Avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un ancien ministre de la Culture qui travaille aujourd'hui comme conseiller culturel aux côtés de l'industriel François Pinault et un architecte qui a notamment construit une église orthodoxe à Paris. Vos questions 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Jean-Jacques Ayagon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone. Jean-Michel Villemotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio à Paris. Hier soir, le président de la République a pris la parole à 20h depuis l'Élysée. La locution, si elle avait des résonances avec l'actualité du pays, était entièrement consacrée à l'incendie de Notre-Dame de Paris et à sa reconstruction. Le président de la République a fixé un calendrier, 5 ans pour rendre Notre-Dame à son intégrité. Depuis 2 jours, on entendait d'autres calendriers, plusieurs années, une décennie, plusieurs décennies. 5 ans, Jean-Michel Villemotte, est-ce que ça vous semble tenable ?
Effectivement, 5 ans, c'est tout à fait tenable, dans la mesure où on fait un bon choix technologique. Si on veut reconstruire la Notre-Dame avec des systèmes traditionnels. J'ai entendu qu'on proposait des forêts entières et je pense que ça sera beaucoup plus que 5 ans parce que d'abord, une forêt, il faut attendre que le bois sèche. Donc d'accord, c'est génial d'avoir une forêt, mais il faut couper le bois, le faire sécher. Et après, la mise en œuvre avec les systèmes tenons, mortaises et fiches est un travail colossal, si vous voulez.
Donc 5 ans, c'est possible à certaines conditions techniques.
Oui, absolument.
Vraiment, c'est très étonnant. Écoutez, vous êtes le premier à le dire aussi simplement.
Des stades de 40-50 000 places en 2 ans et demi. On a fait un stade, on peut le faire en 2 ans, si vous voulez. Ce sont des constructions colossal, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Bon, là on est en centre de Paris, un chantier difficile d'accès. Bon, il y a des solutions pour l'alimenter. Il y a la Seine qui serait très intéressant, un chantier qui serait alimenté par la Seine. Mais je pense que c'est une question de choix technologique, si vous voulez. Et je pense.
C'est-à-dire si on se sert du béton, si on se sert de matériaux.
Oui, il faut trouver les bons matériaux parce que
voilà,
si vous voulez.
Moi j'ai dit béton, je suis pas architecte.
Vous avez dit béton.
Justement, il y a peut-être autre chose.
C'est bien d'avoir dit ça. Béton, il y a une cathédrale qui a été refaite comme ça récemment. Béton, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, c'était sur la cathédrale de Reims qui avait été incendiée. Mais une chose, c'est que le béton aujourd'hui, il est un peu lourd par rapport aujourd'hui à des quand même une structure qui a été affaiblie parce que le feu qui a réchauffé la chaux, qui a brûlé la chaux, a rendu la structure périphérique de la cathédrale affaibli, si vous voulez.
En tout cas, vous nous dites pas de fétichisme du bois et de l'authentique et il faut regarder autre chose. Si on veut tenir le délai, Jean-Michel Villemotte.
Je vais me faire plein d'ennemis, mais si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une façon de dire on vit notre époque. C'est très intéressant de dire on a une époque avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques. On n'est pas obligé de réutiliser le plomb qui est un matériau très très lourd. On n'est pas obligé de réutiliser le chêne. Sachant aussi que cette charpente, elle est par-dessus une voûte, elle est par-dessus une voûte et qu'elle ne sera pas visible de l'intérieur, si vous voulez.
C'est un objectif politique, évidemment, Jean-Jacques Ayagon, que de dire 5 ans, comme le disait un peu plus tôt dans la journée d'hier Anne Hidalgo, avant les Jeux Olympiques, c'est ça le prochain grand rendez-vous. Objectif politique, objectif de mobilisation et donc objectif crédible, nous dit Jean-Michel Villemotte.
Écoutez, en tout cas, il faut se fixer l'objectif de réaliser ce chantier aussi vite que possible, mais également aussi bien que possible. Pour ma part, je laisse aux spécialistes, aux ingénieurs, aux architectes des monuments historiques, aux spécialistes du patrimoine, le soin d'arbitrer ou de proposer en tout cas à l'État quel parti pris de restauration devrait être adopté pour ce monument. Mais par ailleurs, on le sait, très souvent les chantiers monuments historiques s'étirent dans le temps par manque de crédit ou par difficulté à mobiliser suffisamment rapidement des crédits. C'est la raison pour laquelle ma préoccupation s'est aussitôt portée vers la question du financement des travaux, de façon à ce qu'à aucun moment le défaut d'argent, l'absence d'argent, l'insuffisance d'argent ne constitue un obstacle ou une cause de ralentissement des opérations.
On va y venir, Jean-Jacques Ayagon, s'il vous plaît.
Elle semble désormais régler un grand mouvement de générosité.
S'il vous plaît.
C'est mis en œuvre. Il semblerait qu'en 2 jours, on ait pu avoir l'assurance que quelques centaines de millions d'euros avaient déjà été collectés.
Jean-Jacques Ayagon.
À l'État de réaliser les choses le plus rapidement possible.
Est-ce que vous m'entendez au téléphone, Jean-Jacques Ayagon,
oui,
ou est-ce que vous faites semblant de ne pas m'entendre? C'était la question que je voulais vous poser.
Jean-Jacques Ayagon, on va en parler du financement. Si vous permettez, encore une question quand même sur ce que pourrait devenir Notre-Dame de Paris. Jean-Michel Villemotte, si on vous écoute, on comprend qu'en fait le choix, il est déjà fait. Lorsque le président de la République dit « on va le faire en 5 ans », ça veut dire que ce qui est en plomb ne sera plus en plomb, ce qui est en bois ne peut plus être en bois. Est-ce que je vous comprends bien? Et du coup, donnez-nous une idée. Vous êtes architecte, vous avez fait des projets de ce type. Par quoi remplaceriez-vous cela? À quoi pourrait ressembler Notre-Dame?
Avant de vous donner l'idée, je vous donne deux exemples. Lorsque Chartres a brûlé, en 1800, on a refait la structure en fonte. Et la couverture, on l'a refait en cuivre. Lorsque Metz a brûlé, on a refait la structure avec un système de poutres, ce qu'on appelle la poutre Pontenceau, qui est la poutre avec laquelle on a construit la gare du Nord. Et la structure et les couvertures sont en cuivre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, la rapidité, elle vient de... Il faut une bonne analyse des choses et après trouver la meilleure structure. La structure, si elle est métallique, elle va peser déjà deux fois moins lourd que s'il est en bois. En plus, elle peut être préparée en atelier et arriver et directement monter sur place. C'est-à-dire par voie d'eau, ça peut être formidable, ça peut être un chantier extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser les matériaux de notre époque. C'est très très important. Aujourd'hui, si en plus vous mettez une couverture en titane, vous allez avoir une légèreté et vous n'êtes pas obligé d'avoir des masses de structure pour refaire cette charpente.
Et ça ne brûle pas le titane?
Ah non, le titane c'est un matériau exceptionnel, si vous voulez.
Et l'église orthodoxe de Paris, le dôme, il est déjà iconique, si j'ose dire.
Il est iconique, je peux vous dire.
Lourd.
C'est la première fois, d'abord qu'il a été fait dans un chantier naval à Vannes, c'est un chantier qui faisait des trimarans et qui a fait l'avion solaire. Et donc c'est le bulbe, si vous voulez, il y a 5 bulbes, il y a un bulbe principal qui fait une douzaine de mètres de haut, et ce bulbe a été fait en matériaux composites, il est d'une très très grande légèreté, il pèse 20 fois moins qu'un dôme traditionnel s'il avait été fait en structure bois et après toutes les strates nécessaires. Et là, il a été fait directement avec ce système, le principal a été fait en 8 éléments, qui ont été transportés, posés, assemblés sur place et posés par une grue. Et les 4 dômes ont été faits en 4 éléments aussi, qui font 7 mètres de haut. Donc, si vous voulez, c'est une très très grande légèreté et c'est une résistance exceptionnelle, puisque je vous dis, ces bateaux résistent à des tempêtes extraordinaires et c'est bon. Donc, c'était un matériau composite. Imaginez-vous que le bulbe, il fait 5 cm d'épaisseur.
Ce qui est
exceptionnel,
rien.
Exceptionnel.
Jean-Michel Villemotte, monsieur l'architecte, est-ce que vous pouvez me faire un devis? Jean-Jacques Ayagon a déjà ouvert la question de la facture.
Écoutez,
880 millions d'euros récoltés à cette heure, dit Stéphane Bern ce matin chez nos confrères de France Info. Sans doute 1 milliard d'ici
ce soir.
Ça coûte combien un tel chantier?
C'est difficile aujourd'hui de donner cette estimation, ça va dépendre de la technologie utilisée, mais je pense qu'il y a deux chantiers. Il y a le chantier de la couverture de la voûte, ça c'est une première chose qui reprend la silhouette de la cathédrale. Et il y a la flèche, qui a été démolie à une certaine époque, reconstruite par Viollet-le-Duc. D'ailleurs, c'est un exemple extraordinaire de montrer que finalement, à l'époque de Viollet-le-Duc, on a refait une flèche en bois et en plomb, 90 mètres de haut, je trouve que c'est fantastique si vous voulez. D'ailleurs, elle était en bois, c'est pour ça qu'elle s'est effondrée aussi vite d'ailleurs. Mais le devis, il y a deux devis. Il y a un devis qui concerne la couverture, la protection de la voûte, la reconstruction de la flèche. Et après, il y a le devis de restauration d'intérieur. Des orgues, des peintures, du mobilier. Il y a une restauration intérieure, les murs ont été calcinés.
Mais c'est de l'ordre du milliard? Un peu moins.
Oui, on n'est pas loin. Oui.
Sans doute.
Oui,
donc, dans l'enveloppe.
Après, la restauration, il y a des degrés dans la restauration. Si on veut aller très très loin, ça dépend des degrés que vont demander les architectes des bâtiments historiques.
Mais donc, on peut dire ce matin que si ces promesses de dons se concrétisent, on a l'argent d'ores et déjà en 24 heures pour restaurer Notre-Dame de Paris.
Jean-Jacques Ayagon. Vous avez demandé, vous, dès hier, que soit étendu à Notre-Dame, dans la loi qui porte votre nom, hein, le dispositif Trésor National. Ça permet de déduire de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, une partie du don. Et cela, ça serait donc fait pour reconstruire la cathédrale. Est-ce que vous demandez de nouveau ce matin que Notre-Dame soit nommée Trésor National?
Non, puisque la question du financement semble réglée. dans l'émotion de l'incendie, je me suis dit qu'il fallait trouver une idée pour rapidement mobiliser des fonds, de façon à ce que le financement des opérations soit assuré dans les meilleurs délais. Bon, cette question, elle est désormais dépassée. On pourra, pour l'avenir, se demander si le dispositif des trésors nationaux, qui aujourd'hui s'applique à l'acquisition par les musées de chefs-d'œuvre sur le marché international, pourrait un jour être appliqué à un monument dont les travaux nécessitent des moyens très 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 importants. J'avais estimé que ce qu'on pouvait faire pour l'acquisition d'une commode royale pour Versailles, d'un tableau important pour le Louvre, d'un manuscrit rare pour la Bibliothèque nationale de France, on pourrait le faire également pour un monument. C'est une idée que j'avance depuis très très longtemps, qui n'a pas abouti, mais je pense que...
Et vous la retirez donc, on a bien compris, ce matin.
Vous la retirez en tout cas pour Notre-Dame. Mais est-ce que vous entendez Jean-Jacques Ayagon monter ce débat sur cette défiscalisation et le fait que finalement, c'est le rapporteur au budget qui le dit, c'est aussi la Cour des comptes qu'il dit. Toute cette défiscalisation qui permet aux grands groupes de participer, mais aussi d'avoir un avantage, ça coûte 900 millions d'euros par an à l'État prélevé sur le contribuable.
Jean-Jacques Ayagon. Je crois que le rapporteur du budget, même la Cour des comptes, et je le dis respectueusement, se trompe. Ils n'ont pas compris l'esprit de la loi de 2003, de la loi sur le mécénat. La loi sur le mécénat ne vise pas à faire des remises d'impôts et donc à enrichir des gens qui sont déjà riches ou des entreprises. Elle vise simplement à permettre à chaque citoyen ou à chaque entreprise de payer une partie de son impôt en l'affectant à des causes d'intérêt général qu'il juge prioritaires. La loi sur le mécénat n'est d'ailleurs pas une loi sur le mécénat culturel, c'est une loi sur le mécénat en général. Elle profite également à la recherche scientifique, à la recherche sur le cancer, à la philanthropie, à l'alimentation d'urgence, à la coopération internationale, donc à des causes qui sont utiles à la collectivité, qui sont utiles à tous les citoyens, qui sont utiles à la France.
Jean-Jacques Ayagon.
La loi de 2003 prévoit qu'en affectant une partie de l'impôt dû à une cause qu'on a choisie, on accepte de payer un impôt supplémentaire. Parce qu'en effet, s'il y a une remise d'impôt de 60% pour les entreprises ou de 66% pour les particuliers, ça veut dire que les particuliers paient 33% d'impôt supplémentaire en l'affectant au Secours catholique, au Secours populaire,
Jean-Jacques Ayagon,
au Reste du Cœur,
s'il vous plaît.
Du château de Versailles.
Maintenant que je sais que vous m'entendez, Jean-Jacques Ayagon, arrêtez de faire semblant de ne pas m'entendre. Dominique Seux disait tout à l'heure dans son éditorial que les grands donateurs, pour purger ce débat et cette polémique, devraient renoncer à l'avantage fiscal. Est-ce que vous soutenez cette idée? Est-ce que vous la conseilleriez à la famille Pinault que vous conseillez?
Écoutez, je crois qu'il appartient à chacun d'évaluer la meilleure solution à mettre en œuvre face à la situation du besoin criant de.
Mais vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous trouvez que c'est une bonne idée?
La cathédrale de Paris. Bon, je sais simplement ce que je veux vous dire, c'est que lorsque la famille Pinault, dans la nuit de lundi à mardi, a décidé d'affecter 100 millions à la restauration du château de Notre-Dame de Paris, elle l'a fait sans aucune préoccupation de réduction d'impôts. Il appartiendra à François-Henri Pinault, à François Pinault, de décider en effet si ce don donnera lieu à une défiscalisation ou non. Pour ma part, je leur conseillerais de faire en sorte que la charge fiscale pour l'État soit aussi légère que possible.
Allez, on va regarder maintenant vers l'avenir et savoir à quoi va servir cet argent, Jean-Michel Villemotte. On reconstruit quoi? C'est une question qui est à mon avis très profonde pour un architecte. Est-ce qu'on efface le drame? Est-ce qu'on efface la tragédie? Ou est-ce qu'il faut en garder la trace? Comparaison n'est pas raison, mais je pense au Parlement à Berlin qui a été détruit en 1945, qui était une ruine et qui est aujourd'hui un bâtiment composite qui garde évidemment le souvenir des drames de l'histoire, mais qui porte aussi la trace de la modernité architecturale. Alors on refait Notre-Dame à l'identique ou pas?
Je pense que ça serait bien de le refaire à l'identique, mais avec une technologie d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Vous avez parlé de traces et je trouve ça très intéressant. Il serait intéressant de conserver par endroit les traces de cet incendie. pour que elle puisse rentrer dans l'histoire comme une fresque, si vous voulez. Ce serait très intéressant. Et ça, je pense qu'on va pouvoir le faire. Après, la technologie d'aujourd'hui, ça peut être des prouesses exceptionnelles. Il y a des ingénieurs qui peuvent faire des projets exceptionnels. Le problème aujourd'hui, ça va être le suivant. Il y a une analyse à faire par des experts, et après il y a une décision à prendre. Mais la décision, vu le choix du président de la République, elle est obligatoirement avec des matériaux de synthèse.
Ça, on l'a bien compris. Mais moi, c'est une question esthétique aussi.
Esthétique, je pense que
la flèche qui s'est effondrée, elle est récente.
Alors, elle est récente, oui, Viollet-le-Duc, quoi, quand même.
Oui,
mais c'est très bien qu'elle
ait. C'est pas le Moyen-Âge.
Peut-être très intéressant qu'elle ait une troisième histoire. Elle avait une première histoire au XIIIe siècle. Elle peut avoir une nouvelle histoire maintenant. Ça peut être passionnant. Et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et ce serait un très très beau signal de cet événement.
Enfin. Oui, et puis que le patrimoine est vivant, évolutif.
Et puis le patrimoine est vivant, et il doit évoluer, et ça j'y crois énormément.
Alors je pense justement, j'aimerais qu'on continue là-dessus, parce que je pense aux auditeurs qui se disent, vous êtes en train de dire, il faut continuer l'histoire, et eux aimeraient arrêter l'histoire. Pourquoi vouloir faire évoluer ?
Pas nécessairement, Alexandra, on va leur donner la parole dans quelques instants, peut-être qu'ils veulent continuer l'histoire aussi.
En tout cas, l'architecture, c'est quoi ? C'est un symbole de permanence et de résilience en même temps, de moderniser ?
Moi, ce que j'aime dans l'architecture aussi, c'est cette stratification. Les époques qui se superposent, si vous voulez, et qui montrent justement l'air du temps à chaque fois, qui est traduit par l'architecture. C'est passionnant. Il y a même des monuments à Auxerre, on voit 4 siècles côte à côte, 6 siècles côte à côte qui se sont superposés. Je pense que là, effectivement, amener de nouvelles technologies, amener des matériaux de notre époque qui vont être tout à fait cohérents avec la durée du chantier et aussi avec la stabilité du bâtiment, c'est très important, cette stabilité. Et effectivement, peut-être un signal, la flèche peut être en carbone, ça peut être exceptionnel.
Je taquinais Alexandra, mais c'est vrai qu'il peut y avoir l'idée que toute forme contemporaine serait une profanation, en fait, du bâtiment et de son esprit.
Donc, vous voyez, c'est...
Donc, il faut le faire, vous allez me dire.
C'est très subtil, il faut le faire.
Allez, on part au standard où nous attend Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour. Merci.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour. Je me permets de vous appeler. Je suis architecte, donc tout ce sujet me touche profondément. Et je voulais vous interroger, Monsieur Villemotte, par rapport à ce que vous avez dit sur les matériaux. On vous parlait donc de ces stades qu'on peut faire en 2 ans et demi. Et mon inquiétude, c'est plus sur la durabilité des matériaux qu'on met en place, parce que aussi, oui, comme vous, je sais qu'on peut faire des choses en 2 ans et demi ou en 5 ans. Les matériaux ont besoin de temps pour être travaillés, pour entrer en résonance avec le bâtiment. Je pense notamment au bois à l'époque qui était posé, qui mettait beaucoup, beaucoup de temps à sécher. On n'utilise plus du tout ce temps à bon escient. On pose des bois qui ne sont pas séchés, qui ne sont pas sablés, chaulés comme les techniques qui étaient à l'époque. Mmh. Et on avait des bois qui sont encore aujourd'hui présents et qui tiennent, alors que maintenant, dans ce qu'on fait en architecture aujourd'hui, on a du jetable, en fait. Et je vous pose la question de la durabilité, de la pérennité de ce qu'on va faire.
Merci Hélène. Question d'une consoeur. Votre confrère vous répond, Jean-Michel Villemotte.
Oui, écoutez, tout à fait. Mais la durabilité, maintenant, on a quand même des techniques aujourd'hui pour de structures de poutrelles, d'utilisation de l'acier. C'est maintenant très, très au point. On peut faire des structures très, très légères et pérennes. On vient de réaliser un exemple, c'est le couvent des Bernardin avec Baptiste, on a fait la structure, on a retrouvé la silhouette du Moyen Âge avec une structure métallique, je veux dire des poutrelles métalliques. Mmh. Et aujourd'hui, c'est un chantier qui s'est fait, la toiture s'est fait en 1 an sur le couvent des Bernardins. Donc, vous voyez, il y a un savoir-faire aujourd'hui. Il faut pas avoir peur d'utiliser. Mmh. Moi, je veux dire, c'est venu d'hier quand j'ai entendu Stéphane Berg qui a dit sur cette antenne, je verrai pas cette cathédrale terminée. Mais s'il la verra terminée, ça peut vraiment se faire dans des temps record.
Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Françoise, bienvenue.
Oui, je suis très intéressée par votre discussion, mais je suis choquée, très choquée par 2 choses. D'une part, on n'a pas entendu encore, parce qu'ils n'ont pas pu le faire sans doute, l'avis des experts. On ne sait même pas d'où est venu cet incendie et on parle de délai, de travaux. Quand on parle de travaux, c'est normal. Mais je suis choquée par le fait du délai de 5 ans qui correspond, d'après ce qu'avait dit Anne Hidalgo et qu'a repris le président à la tenue des Jeux Olympiques. Mmh. Et je trouve ça très déplacé.
Merci Françoise pour cette question. Alors, Alexandra a raison, s'il y a bien un sujet qui polarise les réactions aux standards de France Inter, c'est cette question du temps. Françoise vient de la poser, j'ajoute Thomas sur l'application France Inter. Les générations futures, celles qui profiteront de Notre-Dame, se fichent éperdument qu'elle soit rénovée en 5 ans. Christine, pourquoi vouloir faire trop vite? Attendons déjà de savoir ce qui s'est passé. Ce genre de débat 2 jours après ne rime à rien. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour construire Notre-Dame, aller vite, n'est-ce pas l'une des pathologies de l'époque, même si on est traumatisé de voir la cathédrale dans cet état, Jean-Michel Villemotte?
Non, je pense pas, mais ce que je trouve, la première chose, c'est que ça suscite en tout cas beaucoup d'enthousiasme. Je trouve ça formidable. La rapidité des réponses a été étonnante. La rapidité des propositions financières a été étonnante. Et c'est quelque chose, c'est inattendu, si vous voulez, à ce point-là. Mais je pense que, effectivement, prendre son temps, c'est une solution. Mais ce n'est plus peut-être notre époque. Notre époque, on a envie de reconstruire ce qui s'est abîmé. On a envie de le revivre. Et puis, c'est un symbole qui est tellement important au niveau de la planète, que ça va être un exemple. Moi, j'imagine même un chantier vivant qui sera retransmis dans des locaux tout autour et qu'en live, on puisse voir jour et nuit ce qui va se passer. C'est une expérience exceptionnelle. Il ne faut pas passer à côté de ça. Vous imaginez que pendant les 5 ans, les 4 ans de la reconstruction, tout soit sans... On voit le travail de ces artisans du 21e siècle. C'est des nouvelles techniques, des nouveaux savoir-faire. Et je pense que ça, au contraire, ça va faire avancer le domaine de la restauration, ça va faire avancer ce domaine de l'architecture d'aujourd'hui. C'est très important.
Jean-Jacques Ayagon, votre point de vue, votre analyse sur le débat?
Je crois qu'il ne faut pas faire vite et pour des raisons idiotes, mais je crois que nous avons tous le devoir de tout faire pour que la silhouette de Notre-Dame soit rapidement rendue au paysage parisien, pour que la cathédrale soit également rendue aux fidèles de Paris. Le chantier qu'il faudra accomplir en amont de la fin des travaux est considérable. Il faut d'abord faire un diagnostic de l'état du site. Il faudra sans doute prendre des mesures importantes de consolidation et de sécurisation du bâtiment. Il faudra rapidement également définir le parti pris de restauration. On voit bien qu'il y a des débats sans fin sur la question de savoir s'il faut faire à l'identique ou s'il faut faire comme le suggère Jean-Michel Villemotte, avec des matériaux de notre temps.
Oui, c'est un débat intéressant tout de même, Jean-Jacques Ayagon.
C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que très rapidement l'État, le ministère de la Culture, convoque une sorte de conférence nationale et même internationale sur la restauration de Notre-Dame, de façon à ce que toutes ces questions donnent lieu à un véritable débat. Je crois d'ailleurs que l'État aurait intérêt à mettre en place pour la restauration de ce monument une maîtrise d'ouvrage spécialisée qui ne serait affectée qu'à ce grand chantier.
Jean-Michel Villemotte, pour parler clair, moi je vais revenir sur la question des dons de la loi Ayagon, les dons des grandes fortunes, des grandes entreprises. L'architecte, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que la loi Ayagon, ça fait du bien au patrimoine? Ou alors, si je veux être plus ferme, est-ce que si on ne fait pas d'avantage fiscal, il y aura moins de projets?
Une niche fiscale de la taille de Notre-Dame de Paris.
Moi, je pense qu'il y a deux systèmes. Moi, je pense que le don populaire est un don très très intéressant, si vous voulez. Qu'il y ait aujourd'hui 1 million de personnes qui viennent du Japon, qui envoient un chèque de 100 euros, je trouve ça, c'est un symbole formidable. Que les grandes entreprises françaises participent, je trouve ça aussi génial. C'est deux histoires totalement différentes. Et je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans la même. Il faudrait peut-être dire que finalement, la restauration des fresques, des peintures, des dorures, etc., le côté finition, détail, la beauté flamboyante de l'intérieur de cette cathédrale pourrait être financée par ces petits... et le gros œuvre pourrait être fait par les grandes entreprises.
Mais sur l'avantage fiscal, sur la niche?
La niche, moi je trouve ça... c'est bien sûr, c'est intéressant, c'est peut-être même pas assez utilisé. Et d'ailleurs, je crois vraiment qu'il y aura un avant et après Notre-Dame. On va voir les choses différemment, aussi bien dans les financements que dans les techniques de restauration. Vous allez voir, dans la rapidité, on est un peuple qui va vite maintenant. On a une époque de d'internet et on va très très vite. On va pas commencer à abattre une forêt, la faire sécher et faire des assemblages qui vont durer 20 ans, 25 ans. Bien sûr que c'est beau, mais il y a plein d'autres chantiers où on peut faire ce genre de travail. Vous savez, il y a 3500 monuments historiques en France, il y a de quoi faire.
Allez, une dernière question, s'il fallait un concours pour refaire cette flèche en néo-post-baroque ou en néo-post-gothique. En l'occurrence, vous êtes candidat, blague à part.
Tout de suite.
Vous êtes candidat sur un chantier comme celui de...
Mais ça, c'est important aussi de que les architectes s'expriment sur un sujet comme celui-là. C'est hyper intéressant. Ça peut être aussi un côté conservateur ou un côté futuriste. Les deux sont intéressants.
Et c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole, merci. Jean-Michel Villemotte. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Et merci à Jean-Jacques Ayagon également pour son intervention dans le grand entretien. Le Carrefour du 7-9 à suivre.